Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Les Jeux Olympiques sont une formidable opportunité pour les aiguilleurs du ciel ou les cheminots toujours prêts à dégainer une grève pour obtenir quelques privilèges que les salariés du privé n'ont pas. Demain, la plupart des avions resteront cloués au sol. Depuis 2005, on compte 249 jours de grève du contrôle aérien en France contre une dizaine dans les autres pays européens. Les grévistes réclament 25% d'augmentation en 3 ans et 18 jours de récupération supplémentaire par an. Ils sont 4000 dans notre pays, 4000 qui bloqueront le trafic. Appelons ça un pouvoir de nuisance. Et cette grève arrive au lendemain de l'accord de la honte, signé par la SNCF avec l'aval du gouvernement. La réforme des retraites ne visera pas les salariés du chemin de fer qui auront un régime spécial. Ils pourront, écoutez bien, bénéficier d'une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, tout en étant payés. C'est un concept génial. Ils seront en retraite avant la retraite. Ça, voyez-vous, je pense que ça ne peut exister qu'en France. Vous n'êtes pas en retraite, vous êtes en cessation d'activité. Là, je dis bravo. Profitez-en, les gars. Le guichet est ouvert, les jeux arrivent. C'est le moment. Demain, on rase gratis. Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une fratrie de délinquants expulsés de son HLM à Taverny dans le Val d'Oise. Ils faisaient vivre un enfer aux habitants. Ils sont connus notamment pour vol en réunion avec violence, escroquerie ou encore usage détention et transport de stupéfiants. Le préfet du Val d'Oise l'assure, maintenant qu'ils sont partis, ces individus ne seront pas relogés par les services sociaux.
Je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on reloge dans le parc social une famille comme celle-ci. Un parc social, logement social, c'est un logement qui est aidé à la construction et qui est également aidé à la location, vous savez, au travers des APL que le contribuable finance. On a 80 000 familles qui attendent des logements sociaux en Ile-de-France, donc ce logement sera rattribué à une famille paisible. Non, cette famille, elle va faire comme beaucoup de Français, elle va devoir chercher un logement par elle-même dans le parc privé.
Le cri d'alarme de la maire d'Avignon. Dans une lettre, l'élu socialiste demande des renforts policiers au ministre de l'Intérieur. Elle raconte que les règlements de compte sur fond de trafic de drogue se multiplient dans sa ville. Et selon le policier Rudy Mana, c'est vrai, à Avignon, l'insécurité est de plus en plus forte.
Avignon était effectivement une ville extrêmement paisible et c'est d'ailleurs une très belle ville, Avignon. Mais effectivement, aujourd'hui, quand vous promenez dans le centre-ville d'Avignon, mais vous sentez pas en sécurité. Les policiers là-bas, ils font un travail remarquable, vraiment.
Et puis Bruno Le Maire proposera sa fiche de paye simplifiée aujourd'hui en Conseil des ministres. Il l'a publié un exemple hier sur X. Concrètement, on passerait d'une cinquantaine de lignes à une quinzaine seulement. L'objectif, évidemment, est de faciliter la lecture des salariés. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci, Chana Lousteau. Et puisque vous parlez de la simplification, c'est génial parce qu'en mars 85, Laurent Fabius avait proposé 20 propositions de simplification. En février 89, Michel Rocard, le renouveau du service public. Édith Cresson avait inventé la cosiforme, la commission pour la simplification des formalités. En 97, Jacques Chirac, discours sur la simplification des rapports avec l'État. Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État sous François Hollande, il avait également imaginé la simplification. Et la vérité, c'est que c'est toujours plus compliqué. Donc, bonne chance à Bruno Le Maire. Merci.
Sur la fiche de paye, moins sur la nouvelle
on s'en fiche de retraite la fiche à la SNCF. C'est pas le problème. Le problème, d'ailleurs, c'est pas pour les salariés. Le problème, c'est pour les chefs d'entreprise qu'il faut enlever des normes, visiblement, si je comprends bien le souci. Charlotte Dornelas, bonjour. Dominique Jamais, Vincent Hervouet, Éric Nolot, Gauthier Lebret sont avec nous et Fabrice Légéry, vous êtes numéro 3 sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Vous êtes venu ce matin parce que deux ONG portent plainte contre vous. Je rappelle que vous êtes directeur de Frontex de 2015 à 2022. Et la Ligue des droits de l'homme et l'association d'aide aux migrants Utopia 56 sont donc portés plainte hier pour complicité de crimes contre l'humanité et de torture contre vous. Alors, c'est un peu complexe sans doute. Je vous propose de voir le sujet de Chloé Tarka et vous allez nous dire ce qu'il en est.
Frontex et l'agence européenne.
Fabrice Leggeri dans le viseur de la Ligue des droits de l'homme et Utopia 56. Les deux associations ont déposé hier une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture contre le numéro 3 de la liste Rassemblement national aux européennes, ex-patron de Frontex.
Cette nuit, au moins 5 personnes sont mortes en essayant de rejoindre le Royaume-Uni, dont une petite fille de 4 ans. Alors que nous alertons quotidiennement depuis des années, rien de tout cela n'aurait dû arriver. Par cette plainte, nous souhaitons mettre fin à l'impunité des donneurs d'ordre et exiger la fin des violences qui gangrènent la gestion des frontières européennes. Nous ne lâcherons rien.
Face à ces accusations, le Rassemblement national, actuellement en tête des sondages pour les européennes, a rapidement exprimé son soutien à son candidat.
Fabrice Leggeri est la victime d'ONG d'extrême gauche pro-migrants, complice du trafic d'êtres humains et que les Français ne supportent plus. Son seul crime, c'est de refuser la submersion migratoire du continent européen. Mon soutien total à Fabrice Leggeri.
Les Français l'ont bien compris. Les associations d'extrême gauche, partisans de la submersion migratoire et complices des passeurs, veulent réduire au silence ceux qui défendent le principe du contrôle des frontières. Soutien à Fabrice Leggeri, cible de ce harcèlement judiciaire.
L'ancien directeur de Frontex avait démissionné en 2022 à la suite d'un rapport de l'Office européen de lutte anti-fraude, pointant la dissimulation de refoulements illégaux.
Quelle est votre réaction ?
Bonjour, bah écoutez, je suis toujours victime des ONG immigrationnistes qui me reprochent une chose depuis plusieurs années, celle de faire mon travail. C'est-à-dire que comme directeur de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, j'ai pris au sérieux le mandat qui est celui de protéger les frontières de l'Union européenne contre notamment la submersion migratoire ou en tout cas les trafics d'êtres humains qui envoient des centaines de milliers de personnes sur notre territoire et qui envoie également chaque année des dizaines de milliers de personnes à la mort. Donc s'il y a aujourd'hui des migrants qui malheureusement meurent en mer Méditerranée, mais également dans le Sahara, et ça, ça se voit un petit peu moins, eh bien c'est parce que des groupes criminels, parce que des passeurs sont en fait en train de se faire beaucoup d'argent sur la misère humaine. Et il y a des ONG en France, en Europe, qui sont de fait en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants
ONG
à la mort.
ONG qui sont subventionnées parfois par l'État.
Alors les ONG, hélas, il faut que les Français le sachent, les ONG sont souvent subventionnées soit directement par l'État, soit par des collectivités locales. On me citait...
C'est le cas, par exemple, de la mairie de Paris.
Voilà.
On a parlé de
SOS Méditerranée,
par exemple, je crois qu'il y a 100 000 ou 200 000 euros chaque année à la mairie de Paris, à la mairie de Nantes aussi.
Voilà, il y a également une délibération cette semaine, je crois, au Conseil régional d'Occitanie ou au Conseil départemental du Gard. Voilà, donc il faut savoir que, en réalité, ces ONG font le jeu de ces passeurs. Alors, c'est derrière cela aussi une responsabilité politique que je souhaite pointer. Tout d'abord, celle de la faiblesse de la Commission européenne. Avec des ambiguïtés, je pense notamment depuis la commission von der Leyen et la commissaire européenne Johansson qui m'avait dit « Vous n'avez pas besoin d'armes et d'uniformes pour le corps européen parce que votre travail de garde-frontière, c'est d'accueillir les migrants ». Donc la commissaire Johansson, pour le moins, se fait la porte-parole des ONG. Donc ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à muscler le contrôle des frontières. Donc ça, c'est la faiblesse de la Commission européenne qui nous montre que, de toute manière, l'Union européenne n'est pas la solution, même si on va encore entendre cette semaine de grands discours.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces ONG en France ? Est-ce qu'il faudrait leur couper les vivres ?
Il faudrait politiquement leur couper les vivres. Il faudrait qu'on puisse porter plainte. Que les autorités puissent les poursuivre aussi sur le plan pénal. Mais je souhaiterais aussi pointer la responsabilité de la Macronie, la responsabilité politique, parce que c'est
je dirais, ces attaques contre moi, mais de manière plus générale contre les gardes-frontières, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, ces attaques sont issues de l'extrême-gauche et de leurs ONG.
Ce qui est le cas, par exemple, pour Utopia 56, la Ligue des droits de l'homme, c'est deux ONG de l'extrême-gauche pour vous ?
Bah, il y a aussi des partis politiques qui sont d'extrême-gauche. Je dirais qu'il y a une espèce de collusion...
Non, mais là, ce sont les deux ONG qui portent plainte.
Entre des ONG et des partis politiques. Mais la Macronie, soit par incompétence, n'a pas compris ce jeu depuis plusieurs années, parce que moi j'alerte depuis en gros 2017, les ONG en Méditerranée et ailleurs m'ont ciblé depuis 2017 parce que je fais mon job.
Bien sûr. Bah écoutez, c'était intéressant d'écouter effectivement votre, si j'ose dire, votre version, en tout cas votre défense. Je voudrais qu'on écoute Sébastien Chenu, il était ce matin, il est du Rassemblement National, je crois qu'il était sur France Info.
Ce sont deux associations extrêmement politisées, extrêmement hostiles au Rassemblement National. Je regardais, la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Mme Vergia, était encore députée européenne communiste il y a quelques années. Donc si vous voulez, ce ne sont pas des gens neutres, ce sont aussi des gens qui mènent des combats hostiles au Rassemblement National et des combats pro-migrants. Donc sur le fond, on n'est pas face à des adversaires ou face à des associations apolitiques, on est face à des adversaires politiques. Sur cet aspect-là des choses, qu'est-ce qu'on reproche à Fabrice Leggeri? D'avoir fait son boulot.
Non, mais c'est ça que je trouve absolument insupportable. Il a raison, Monsieur Chenu. Ces gens-là font un combat politique. Alors, c'est leur droit. Mais les mairies, notamment, où l'État n'a pas à subventionner précisément ces ONG, ben non.
Ah non, mais vous dites c'est leur droit. Moi, je conteste même.
Bah, ils ont le droit de mener un combat politique.
Non, pas pour les résultats qu'ils veulent obtenir. Organiser un appel d'air. En direction de personnes qui soit vont être victimes de crimes contre l'humanité, parce que c'est vrai qu'ils les envoient à la mort. Oui. Ça peut être moins dramatique que ça, mais tout aussi déplorable. C'est des gens qu'on va retrouver sous le métro aérien à Paris, dans des comptes fortune en bordure de périphérique, des gens qui ont pour objectif politique d'obtenir, je regrette, mais au bout du bout, ça revient à la mort de certaines personnes ou de les laisser dans des situations désespérées. Ça doit être combattu sur le principe et pas seulement sur la subvention.
Moi, j'entends bien,
je suis plus radical que vous.
Bien, mais quand, on avait parlé d'SOS Méditerranée, les subventions de la mairie de Paris, les subventions de la mairie de Nantes, les subventions de, je crois, de la mairie de Rennes également pour SOS Méditerranée, les Rennais, les Nantais, les Parisiens n'ont pas voté pour ça.
Mais là où Éric Nolot a raison, c'est que parfois ces ONG se servent des migrants pour faire des mises en scène avec des tentes devant la Comédie Française, devant la mairie de Paris, etc. Et faire des coups médiatiques et politiques. Et ils se servent de ces migrants et de la misère humaine.
Merci en tout cas, monsieur Leggeri. Vous êtes numéro 3, je le rappelle, sur la liste du Rassemblement National. Vous avez rejoint le Rassemblement National il y a quelques semaines.
Oui, c'était en février.
Et c'est votre premier engagement politique.
C'est mon premier engagement politique. Et en fait, c'est la conclusion... professionnel qui m'a conduit à penser qu'on ne peut plus agir si on ne fait pas de politique. Et moi, je pense qu'en tout cas, il y a eu une grande complaisance de la Commission européenne qui organise de facto cette submersion migratoire. Je pense que le seul rempart, c'est le Rassemblement national contre ce véritable terrorisme intellectuel. Parce qu'au sein de Frontex, ils ont infiltré des représentants d'ONG et les agents... normaux, je dirais, qui ont envie de faire leur travail, craignent pour leur poste. Et en fait, moi, je n'ai pas cédé face aux intimidations. Et malheureusement, la Macronie n'a pas voulu comprendre, n'a pas voulu agir. C'est toujours le pas de vague. Et en réalité...
Quel était votre interlocuteur dans ce que vous appelez la Macronie?
Mon dernier interlocuteur, c'était Clément Beaune, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères et qui, en gros... Avait un petit peu souri en disant oui, ben voilà.
Tu t'en fiches, quoi.
Voilà. Et puis, enfin, le message général que des hauts fonctionnaires avaient été chargés de me donner, c'était de dire en haut lieu, à Paris, on ne veut pas se fâcher avec Mme von der Leyen ni avec Mme Johansson.
Non, mais c'est très intéressant d'écouter effectivement les témoignages et comment vous travaillez, parce que je pense que ce que vous dites est sans doute la réalité. C'est-à-dire que bon, on laisse faire, mais en fait, tous ces gens ne servent à rien. C'est ça la réalité. Donc c'est un vrai problème d'ailleurs, et vous l'exprimez assez clairement, c'est-à-dire que tout ça ne sert à rien, tout ça est du cirque. Donc c'est des mots, des paroles, et puis il y aura eu 5 millions à la fin du quinquennat Macron, quoi, des 10 ans Macron, vous aurez 5 millions d'immigrés qui seront entrés sur le sol de France.
Bah vous voyez bien qu'ils servent à quelque chose.
5 millions.
Il y a un bilan.
Donc le bilan, et là aujourd'hui on est le 24 avril, ça fait 2 ans qu'Emmanuel Macron a été réélu. Tous les jours, je dis la même chose. J'adorerais dire du bien d'Emmanuel Macron. Le bilan est effrayant. oui. dans tous les domaines. Il est effrayant. C'est-à-dire que vous avez 5 millions de gens qui sont entrés. Vous avez 1000 milliards de dettes. Vous avez une insécurité qui est plus grande. De quel côté qu'on se retourne, le bilan est sinon effrayant, du moins navrant. Donc, c'est évidemment, ça interroge. Ça interroge. Merci en tout cas. Grande Sainte, et on en parle, Grande Sainte, les obsèques de Philippe Kopmann, jeune homme de 22 ans tué la semaine dernière à Grande Sainte, auront lieu ce mercredi à 14h30. Des centaines de personnes sont attendues pour ce meurtre tragique survenu le 16 avril dernier. Alors, je vous propose, et c'est Fabrice Elsner qui était à Grande Sainte. Et Fabrice Elsner est un des journalistes reporters d'images qui travaille avec Maxime Le Guay en l'occurrence. Et vous allez entendre le son de la mère d'un des prévenus. D'un des prévenus. Je ne sais pas si c'est lui d'ailleurs qui a porté les coups ou pas, on ne le sait pas. Et cette mère, elle est un peu désemparée. Sa voix d'ailleurs a été déformée. Et j'ai eu Fabrice Elsner ce matin et c'est à la demande de cette mère. Elle a dit, moi je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix parce qu'elle a peur des représailles. Mais elle montre, il a 14 ans ou 15 ans, hein, c'est une mère d'un des deux enfants. 14 ans ou 15 ans, elle est désespérée cette mère et écoutez-la.
Je ne suis pas du tout responsable parce que quand il était à la maison en fait, ça veut dire en gros, soit il a attendu que je dormais pour partir. Je lui ai fait confiance, je lui ai dit, toi c'est bizarre que t'es rentré si tard. Il me dit, non maman, je te jure, je suis la preuve, je suis là. Mais bon, si vraiment mon fils est dedans, que je pensais qu'il n'était pas de base, mais vu la police qu'il le prenne, il faut pas non plus se voiler la face que effectivement il doit être dedans. Je me demande si j'ai loupé quelque chose sur son éducation, quoi. Parce que de base, ils sont tous éduqués à la même valeur. Je comprends pas ce qu'il a dit le Premier ministre là, pour le couvre-feu. Eh ben, je trouve ça normal. Ok, peut-être mon enfant s'est retrouvé dehors à cette heure-là, mais on n'est pas derrière eux tout le temps, vous voyez. Nous, on leur dit de ne pas sortir, qu'il est interdit de sortir, que de base, la nuit, c'est fait pour dormir, c'est fait pour rester à la maison, c'est pas fait pour traîner dehors. Faire quoi dehors, la nuit?
Bah, c'est pas nous qu'il faut convaincre, hein. Pas nous qu'il faut convaincre qu'en effet c'est pas une heure pour être dehors à 14 ans, ça c'est sûr. Charlotte, je sais simplement, là en l'occurrence je ne sais pas la mère de qui c'est et je ne sais pas quelle est la distribution des rôles, mais du côté policier on explique aussi que les mises en cause, il y en a deux qui sont mises en examen aujourd'hui, un troisième qui a été placé en garde à vue et qui potentiellement va être mis en examen à la suite des autres, ils le sont pour assassinat, les policiers les connaissaient, il y avait des condamnations préalables, hein. Ils attendaient leur audition pour obtenir leur peine. Vous savez, comme ils sont mineurs, c'est séparé entre la reconnaissance de culpabilité et le prononcé de la peine. Donc ils étaient entre les deux, en mesure éducative, suivis pour ça. Et par ailleurs, il y a un environnement délinquant chez ces jeunes-là. Il y a un des pères qui avait été en prison pour violence conjugale notamment, une mère qui était impliquée dans le trafic de drogue. Et certains policiers m'ont dit, malheureusement, pour ces jeunes-là, c'est une sorte de relève, en fait. Donc je suis obligée de dire les deux aussi. Par rapport à ce témoignage, je ne sais pas la mère de qui elle est et je ne peux pas mesurer sa sincérité, c'est une évidence. Mais ce qu'on a appris, et je pense que c'est important de le dire aussi dans cette affaire, c'est que Philippe Kopmann, vous savez, depuis le début, on a la version des mises en cause forcément seule, puisque la victime n'a pas pu expliquer, évidemment. Et les mises en cause expliquaient qu'ils avaient eu ce rendez-vous par le biais de l'application Coco. La famille a toujours démenti en disant pas du tout, ils sortaient de chez un ami. Et les policiers ont appris depuis qu'un autre homme s'était présenté à la police en disant que lui avait eu rendez-vous via Coco, qu'il s'était douté qu'il y avait un guet-apens et qu'il n'y avait pas été. Donc probablement qu'en plus la famille a raison depuis le début de contester la version des mises en cause. Bon, déjà c'était abominable tout court qu'il y ait prise de rendez-vous ou pas. Et là vous atteignez l'horreur absolue. Donc,
Mais voilà. Voyez, on écoute le tableau fait par Charlotte et on se dit la réaction qui devrait immédiatement survenir c'est un branle-bas de combat. Or non, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Oui, c'est
ce drame se reproduira tout simplement parce qu'on n'attaque pas les racines du mal. Là, cette dame qui intervient parle du couvre-feu. Voilà la réaction. Écoutez, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus radical et il faut utiliser le mot, quelque chose de beaucoup plus brutal. Tant qu'on reste au cosmétique pour essayer de remédier à des situations aussi dramatiques, eh bien, ça ne marchera pas, évidemment.
Alors le couvre-feu, effectivement, vous parlez de... Oui. Quelque chose de cosmétique. Écoutez ce que disait Robert Ménard hier sur cette antenne.
C'est une mesure de fermeté qu'a pris le maire de Béziers pour lutter contre la délinquance. Un couvre-feu mis en place hier soir et ce jusqu'au 30 septembre prochain. Plusieurs quartiers prioritaires sont concernés, le centre-ville, le quartier La Devèze ou encore l'Iranguet. Un couvre-feu
qui interdit à tout mineur âgé de moins de 13 ans et non accompagné par un adulte de se trouver dehors entre 23h et 6h du matin. En 2014, Robert Ménard avait déjà pris une telle mesure qu'il avait dû retirer à la suite d'une décision du Conseil d'État, au motif que la ville de Béziers n'avait pas apporté d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans.
Il y a 10 ans, on avait été poursuivi, vous en souvenez peut-être, par la Ligue des droits de l'homme, comme si elle avait rien d'autre à foutre, la Ligue des droits de l'homme, que de s'occuper de ça. Je lui en donnerai d'autres sujets. Et ensuite, ça avait été du coup cassé par le Conseil d'État. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus exactement dans la même position. D'abord, les mentalités ont évolué. Regardez, au même moment où je fais ça, le ministre de l'Intérieur fait au fond la même chose. En Guadeloupe, c'est difficile de me dire, en Guadeloupe, le ministre a raison de le faire et vous, vous n'avez pas raison de le faire.
Aujourd'hui, Robert Ménard appuie sur la nécessité de cette mesure pour assurer la sécurité de sa ville, fortement touchée par la délinquance.
Béatrice Brugère était ce matin sur RTL. Je vous propose de l'écouter parce qu'elle a peut-être une solution, non pas tant sur le couvre-feu, sur ce que nous venons d'entendre à l'instant, mais sur ce qu'il faudrait faire pour ces jeunes gens de 14 ou 15 ans lorsqu'ils sont pris en défaut.
On n'a pas pris en compte cette criminalité extrêmement violente sur laquelle, et Gabriel Attal a raison, il faut ouvrir le débat sur des comparutions immédiates, sur des faits très graves pour les sanctionner très vite. Et on a réduit les possibilités de détention, je pense que c'est une erreur.
Ça veut dire qu'il faut envoyer des mineurs en prison ?
Il faut, quand c'est nécessaire, envoyer des mineurs, mais il faut aussi...
À partir de quel âge, Béatrice Brugère ?
Alors, en fait, vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que la criminalité, elle est de plus en plus jeune. Donc aujourd'hui, avant 16 ans, c'est très, très difficile de mettre un mineur en détention, et c'est normal. Alors, ce sont des détentions spéciales. Hein,
aménagées dans des centres.
Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'un mineur sur deux fait l'objet déjà d'une assistance éducative. Donc si vous n'avez pas une vision macro, en fait, aussi de toute l'assistance éducative des mineurs, qui est aussi en grande difficulté parce qu'on manque de moyens, que les délais de prise en charge de la protection judiciaire et des départements sont extrêmement lents parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'éducateurs. Il faut absolument faire un plan massif de réinvestissement sur la justice des mineurs, tant en assistance éducative qu'au pénal, avec des nouveaux outils pour aller plus vite, pour être plus sévère. Mais également, il faut voir que du côté de l'éducation nationale, nous avons une énorme problématique parce que les mineurs qui sont délinquants, c'est surtout des mineurs qui sont déscolarisés ou qui traînent la nuit.
Il y a tellement de chantiers à ouvrir de tous les côtés qu'on peut s'interroger. Il reste 3 ans hein, avec Emmanuel Macron. 3 ans. À peu près 1091 jours. À peu près 1091 jours. Je vous assure, je ne sais pas dans quel état la France va terminer.
Oui.
Mais là, c'est un chantier global sur la justice.
Oui, mais il faut ouvrir tous les chantiers.
Mais là, on voit les trois...
Et j'ai dit tout à l'heure 1000 milliards, mais c'est 1000 milliards supplémentaires, bien sûr. Chacun aura compris.
Oui, c'est 1000 milliards dû à Emmanuel Macron.
Voilà, 1000 milliards de dettes supplémentaires.
Mais là, on a entendu les trois acteurs principaux du problème des mineurs se renvoyer la balle. La mère est dépassée, oui. La justice est dépassée, l'éducation est dépassée. Comment ça se fait qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres pour adopter, comme elle dit, un plan massif d'éducation des mineurs ?
Bon, je ne vois pas ce qu'on va dire mais de toute façon de nouveau qu'on n'ait pas
mais
dit.
Par rapport à la question, je pense qu'il y a un problème de conception même de la justice et de l'éducation. Oui, elle insiste beaucoup sur la mesure éducative. Oui. Si vous ne partez pas du principe que pour ces jeunes en particulier, la répression est nécessaire pour toute éducation qui suivra et qui est nécessaire aussi, vous pouvez faire toutes les mesures éducatives que vous voulez. Si tout n'est qu'excuse...
Mais c'est vrai que quand je dis que c'est le grand n'importe quoi, il y a une réforme des retraites...
En centre éducatif fermé, parce que là, il y a la question, est-ce que certains mineurs doivent aller en prison ? Oui, il y a des centres, c'est évidemment extrêmement...
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils vont adorer, vous savez, ne rien faire toute la journée entre soi.
Non.
Mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la prison.
Si, en fait, pour les mineurs...
Et un centre éducatif fermé.
Vincent, ouais.
Évidemment que j'imagine ce que c'est que d'être enfermé. Pardonnez-moi de ne pas y avoir été, ça c'est sûr que mon expérience s'arrête là.
Non, mais je vous
parle
tout à fait, Charlotte. La question, c'est que ça peut ne pas être... Ça peut être la fausse bonne idée. C'est même, à mon sens, une très mauvaise idée. On ne peut pas leur faire faire des cours de théâtre à tous. Hein, on ne peut pas proposer aux adolescents de 14-15 ans d'être à l'école dans un cadre où on les éduquerait sans trop de coercition. Hein, mais le centre éducatif fermé, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Non. C'est pas forcément.
Alors, aujourd'hui, oui. Mmh. Mais ça ne veut pas dire aujourd'hui que ces gamins-là ne méritent pas d'être loin de leur quartier, loin parfois de leur famille et éduqués par d'autres. C'est tout simplement ça, en fait, dont ils ont besoin.
L'état d'abaissement où est la société française, que l'on soit impuissant, horrifié et inactif par rapport à la délinquance des mineurs, c'est quand même énorme. On sort de sociétés où les adultes n'avaient pas peur des enfants. Non, quand même.
Juste une chose, là où c'est
et Charlotte
vrai,
Dornelas.
C'est que la tentation là aujourd'hui, c'est de se dire, puisqu'on n'arrive pas à concevoir l'éducation correctement de ces mineurs, on va les considérer comme des adultes. C'est une erreur aussi, ça c'est parfaitement vrai.
On va marquer une pause et on reviendra évidemment sur cet accord de la honte qui est tellement symbolique. Évidemment que c'est symbolique, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF avec l'accord du gouvernement, c'est-à-dire que la réforme de retraite...
Pas.
Comment ?
On n'entend pas. Oui. Vous avez entendu le gouvernement sur cet accord ?
Mais
ils sont aux abonnés absents, ils se planquent.
Mais c'est invraisemblable, c'est tellement...
La ministre du Travail, le ministre de l'Économie...
Mais c'est invraisemblable. Moi je serais Emmanuel Macron, mais je dirais, mais comment est-ce possible, quoi ? Je fais une réforme de traite, mais on me prend pour... Même lui, il doit se dire, mais ils me prennent
si c'est pas remonté jusqu'à lui, c'est vraiment invraisemblable.
Non, je pense pas qu'il s'en fiche.
Ils ont
inventé le concept de la cessation d'activité.
Pascal, c'est forcément remonté jusqu'à lui.
On n'est pas en retraite.
On
ne
peut pas détricoter sa réforme qu'il a promise pendant sa campagne présidentielle sans l'en avertir.
Eh bien, Jacques Vendroux lui posera la question ce soir. Oui. Parce que Jacques Vendroux le fait jouer au football.
À la mi-temps.
Donc, à la mi-temps. Et donc, il lui posera la question. J'ai demandé à Jacques.
Qu'il soit taclé sur le terrain.
Il est taclé dans l'émission, déjà. Il ne peut pas être taclé tout le temps.
Il fera une pause.
Bon. Est-ce que monsieur Hill, Thomas de son prénom, est là ? Bonjour, Thomas Hill.
Je suis là, Pascal.
Sur Europe 1.
Europe 1, bien sûr. Bon, merci, Pascal.
Je vous en prie. Vous êtes à l'antenne jusqu'à 11h sur Europe 1. Et nous allons continuer, effectivement, avec cet accord de la honte, avec la grève des aiguilleurs du ciel, avec le bilan d'Emmanuel Macron. Et puis, alors, on aura... Écoutez, vraiment, ça me fait plaisir, parce que je pense que ça va être sa première télé depuis très longtemps.
Ah oui.
Il est devenu un infréquentable. Et c'est un des plus beaux esprits, disons-le, et c'est un... Ce qu'il dit, les autres ne le disent pas, et c'est pour ça que c'est intéressant de l'écouter. Richard Millet, qui était chez Gallimard, qui avait pignon sur rue, qui était un homme au plus haut niveau de la littérature française.
D'abord, c'est un grand écrivain. Ensuite, il a fait des best-sellers pour Gallimard. Oui. Et dès que Mme Ernaud a organisé une pétition contre lui, il est devenu pestiféré.
C'est-à-dire qu'on ne voulait plus.
Ah, une fatwa. C'est une fatwa.
C'est une fatwa
laïque, mais ça marche encore mieux que les fatwas, parce que même Salman Rushdie a réussi à échapper pendant 35 ans, alors que pour Richard Millet, il a été tout de suite considéré comme un pestiféré.
Alors évidemment, c'est quelqu'un qui pose un regard très sombre sur notre société. Jamais le monde n'a été aussi abject en tout lieu, et pour des raisons qui se rejoignent plus qu'elles ne divergent, dans une société qui a fait du mépris un mode de gouvernement. Bon, moi je pense que le monde y a toujours été horrible. Et bon, c'était mieux avant quand ? Avant Auschwitz ? Vous voyez ce que je veux dire. Mais en revanche, nouveau lieu commun, exégèse, exorcisme, c'est vous qui m'avez donné l'idée de l'inviter, parce que vous l'avez chroniqué dans le journal du dimanche il y a 15 jours.
Absolument. Et, grand livre. Parce que c'est la dégradation du langage.
Oui.
Je pense que c'était mieux avant, de ce point de vue-là. Je pense que la dégradation du langage atteint des sommets. Voilà.
Et toute votre place.
Monsieur Légéry, merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'être passé par le plateau de CNews. Il est 9h26, la pause, nous revenons. Il est 9h32, Somaïa Labidi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une série de mesures pour répondre à l'excès administratif présenté ce matin par Bruno Le Maire. Fiche de paie simplifiée, suppression des normes, réduction des délais pour aller vers la France du bon sens promise par le président lors de ses vœux. Eux promettent un jeudi noir dans les aéroports, 75% des vols annulés à Orly, 65%. À Roissy et Marseille, les contrôleurs aériens réclament des mesures de compensation des hausses de salaire et déplorent l'échec des négociations avec la Direction générale de l'aviation civile. Et puis après la Chambre des représentants, le Sénat américain adopte une gigantesque enveloppe d'aide, un plan de 95 milliards de dollars qui comprend des fonds en faveur de l'Ukraine mais aussi d'Israël et de Taïwan. Un plan d'aide très largement soutenu par les sénateurs.
Merci Somaya. Donc on en a déjà parlé hier, on ne va pas y revenir longuement, mais cette affaire de la SNCF, alors vous disiez tout à l'heure, le gouvernement est aux abonnés.
Ah bah vous avez entendu, vous avez une réaction à diffuser ce matin. Personne n'a réagi, tout le monde se terre. Alors il faut savoir combien ça coûte, parce que la SNCF, évidemment, on se garde bien de nous dire, et le gouvernement pareil, combien ça va coûter. Alors on peut se tourner vers l'IFRAP, c'est les seuls à avoir chiffré l'organisation d'Agnès Verdier-Molinier. Ils disent que ce petit accord, donc aux petits oignons, ça va coûter 300 millions d'euros. 300 millions d'euros aux Français.
Fascinant. Voilà. C'est fascinant.
En fait. Et on rappelle en plus qu'avec la réforme, donc c'était 64 ans pour tout le monde.
Même Sudrail a trouvé ça bien. Sudrail est content.
Ah, mais c'est un bon signe. Oui.
Sudrail est content.
Mais avant même cet accord, c'était 54 ans le départ pour les cheminots. Avant l'accord, c'était 59 ans pour tous les autres. Donc c'était déjà bien avant tout le reste des Français.
Mais on est d'accord que l'État est actionnaire de la SNCF, donc l'État a donné son accord.
Et comment voulez-vous détricoter une loi voulue par Emmanuel Macron sans que ça remonte à Bercy ou au ministère du Travail?
Enfin, ces gens nous prennent pour des pimpins.
Mais oui, il y a enfin, un objectif. Il y a un seul objectif. Avoir des trains.
C'est invraisemblable.
Avoir des avions au moment des JO. C'est le seul objectif. Voilà. Donc, pour les JO, on est prêt à tout.
Non, mais soyons clairs. Dans cette affaire, il ne faut pas se tromper de responsable.
Oui.
Le président de la SNCF, c'est son affaire, il a sans doute tort d'une certaine manière. Il a assuré la paix sociale dans son entreprise et il n'y aura pas de grève pour les Jeux Olympiques. Mais il n'aurait pas fait évidemment cet accord et il n'aurait pas pu le passer sans l'accord du gouvernement qui se désavoue lui-même discrètement dans l'ombre et qui n'assume pas sa capitulation.
Et il n'y a pas un mot. Il n'y avait pas des représentants dans les matinales ce matin du gouvernement?
Alors, j'étais moi-même à l'antenne, donc peut-être que j'ai loupé. Je pense que ça serait remonté jusqu'à nos oreilles. Personne ne dit rien. Il y avait Bruno Retailleau ce matin chez nous pour en parler.
A priori, il n'est pas
dénoncé l'accord.
Il n'est pas au gouvernement.
Mais le gouvernement se cache.
Je rappelle quand même que la semaine dernière, un certain Pascal Praud nous vantait les Jeux Olympiques en nous disant que le prix exorbitant que ça allait coûter dans tous les domaines n'était rien par rapport à cet événement extraordinaire qu'il allait regarder.
Quel est le rapport avec les Jeux Olympiques? C'est pas les Jeux Olympiques qui sont en.
Non,
c'est pas le problème, c'est pas les Jeux Olympiques.
Non, il n'y a pas de rapport.
Non,
c'est pas pour acheter.
Non, c'est pas les Jeux Olympiques. Le problème, c'est la faiblesse du gouvernement. C'est pas les Jeux Olympiques.
Pendant les Jeux Olympiques.
Et ça n'a pas de... c'est pas les Jeux qui sont responsables. Enfin.
Ah bah si, c'est qu'il faut que les trains circulent pendant les Jeux. Donc on lâche tout. Bah
donc
si,
il y aura un village Potemkin qui s'appellera la France Olympique.
Les contrôles aériens.
Et on le dit quand même très rapide. Hein, c'est vous partez 15 mois avant votre retraite, vous êtes payé 75%.
Mais c'est fou. Non mais je vous dis le concept.
Il faut que les retraites partent à l'heure.
Le concept de la retraite, de la réforme est passé.
Le concept est kafkaïen. Ouais. C'est-à-dire que c'est la retraite avant la retraite.
Oui.
C'est génial. tu n'y aurais même pas pensé.
Et c'est déjà la retraite avant la retraite à la SNCF, c'est ça qui est dingue.
C'est banal hein, dans les grandes entreprises.
C'est que c'était 54.
Non, mais c'est la retraite avant la retraite. C'est-à-dire tu es en cessation d'activité. Ne viens pas, vieux. Tu es en cessation d'activité sur les 30 derniers mois. Je suis en retraite. Non. Tu es en cessation d'activité. Qu'est-ce que ça change? Rien. Bon, c'est formidable.
Il est 75.
Je veux dire, c'est Kafka.
Rester chez soi.
C'est Kafka. Bon, les aiguilleurs du ciel. Alors eux, les aiguilleurs du ciel, le chiffre qui dit tout, là encore, je l'ai dit tout à l'heure, on a 249 jours de grève depuis 2005. 249. Donc en 20 ans, ça fait en gros 10 jours de grève par an, à peu près.
Et s'ils n'ont pas satisfaction
10 ou 12 jours par an. Bon, les autres pays, c'est moins de 10 jours.
S'ils n'ont pas satisfaction, ils troubleront les Jeux Olympiques.
Exactement.
S'ils n'ont pas satisfaction, ils ne les troubleront pas.
Pas de rapport.
Oui,
non, mais soyez de bonne foi, pour une fois.
Non, mais honnêtement,
que ce jour soit marqué d'une pierre blanche,
non,
soyez de bonne foi.
Mais c'est plus français que je
sais pas.
Tout est lié aux Jeux Olympiques.
Non, oui, mais.
Et à la France,
pardonnez-moi.
C'est un. Comment dire c'est un objet collatéral ou un.
Dommage.
Un dommage collatéral.
Oui, dans le dommage collatéral, il y a dommage. Voilà.
Oui, mais ce n'est pas les Jeux qui sont responsables quand même.
Il lâche tout.
Oui, mais c'est.
Tout pour 15 jours. Vous en foutez depuis la boule, vous.
Oh, pas des attaques personnelles.
Oui, mais moi je reste là.
Vous restez là,
Contrairement à vous.
Vous restez là à Paris pendant les Jeux.
Bah, évidemment.
Et pourquoi?
Je partage le sort du peuple.
Ah, vous êtes
partie de ces élites qui s'exilent.
Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez.
Comme pendant la Révolution française à Coblence.
À Coblence.
Là, je vais un peu loin, pardon.
Les contrôles aériens, donc les contrôleurs aériens sont en grève. Les compagnies aériennes vont devoir annuler 75% des vols à l'aéroport d'Orly, 65% à Charles de Gaulle, Marseille, etc. L'ensemble des syndicats appellent à une grève en raison de l'échec de stade des négociations. Ils n'ont 18 jours de récup en plus. Ils ont déjà des RTT plus ou moins officieux.
Salaire, hein.
Voilà, ils sont un peu plus contrôlés qu'avant. Alors, ils sont pas contents, etc. Bon, ça c'est du racket.
Ils auront tout ce qu'ils demandent.
Bon,
vraie compétition.
Emmanuel Macron. Alors, le bilan d'Emmanuel Macron. Et je le dis, mais sincèrement, j'adorerais dire du bien d'Emmanuel Macron, vraiment tous les jours. J'adorerais
Pourquoi
ça. Pourquoi ? Parce que c'est mon pays. Bon. J'aimerais bien dire, voilà, notre pays marche bien, c'est voilà, ce qu'on a fait depuis 7 ans, on a progressé, c'est mieux, c'est positif, voilà, mais j'ai pas vocation. Bon. C'est effrayant. Mm-hmm. Si tu mets les lignes les unes derrière les autres, mais en fait, c'est effrayant. Mm-hmm. Dans quel domaine ça marche mieux ? Un truc que j'ai repéré, rajeunissement de la vie politique.
Oui. Ah bah c'est super.
C'est pas mal.
Bon, enfin oui, mais c'est oui, pas bien non plus, quoi. Je veux dire, on s'en fout.
Rajeunissement de la vie politique, bon, ça peut être pas mal. Mais autrement,
pour le résultat,
1 000 milliards en plus. Le quoi qu'il en coûte, c'est ce qu'il fallait pas faire. Je ne sais combien de millions d'immigrés en plus sur le sol de France. Une insécurité grandissante. Des homicides, il n'y en a jamais eu autant depuis la nuit des temps. En fait, tu peux multiplier l'école, les classements PISA nous disent qu'on est nul.
Non.
Il y a quand même de grandes conquêtes. Vous avez l'avortement dans la Constitution.
Oui, alors il y a ça, le sociétal.
Ah ben voilà.
Voilà, il y a, comme tu peux rien. Alors,
vous avez
compris,
l'euthanasie.
Je vais vous dire, avec Emmanuel Macron, tu as compris un truc définitivement. Ouais, c'est que le pouvoir, il est à Bruxelles. Ce que tu auras compris plus que pour n'importe quel président de la République, ça ne sert à rien. Ils inaugurent les chrysanthèmes. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est ça. Alors, tu as bien compris. Et tu attaques le sociétal. La fin de vie.
C'est pas nouveau. Hein.
La fin de vie, c'est pas nouveau. Mais alors là, c'est frappant. Tu ne peux rien faire.
Ouais. Bon. Non, parce qu'il n'y a pas de volonté.
Ce qui est nouveau, c'est le Charles de Gaulle.
C'est trop facile de dire. En gros, c'est pas de sa faute si on dit ça. Si c'est Bruxelles, c'est pas de sa faute. Mais sur un sujet très concret comme l'agriculture, il y avait une part, on l'a bien vu au moment de la crise, de surtransposition des normes. Franco-française.
Bon, il sera cet après-midi surtout avec Jacques Vendroux. Il jouera au football.
Et demain à la Sorbonne.
Et à la Sorbonne.
Formidable. Il joue au football. Le maire de Paris se baigne dans la Seine.
Les élites, on a le pénalty. Regardez,
on se sent gouverné.
Le pénalty est formidable. Regardez le pénalty. C'était le pénalty du président.
Ah, le goal. Le goal est vraiment.
Le gardien.
Absolument.
Voilà. Hop. Mais cela dit,
il a fait son maximum.
Non, mais bon.
D'abord, il lui laisse tirer le pénalty et le gardien le laisse passer.
Bon, donc c'est merveilleux. Le président, donc, ça a regardé le match pour les pieds.
Regardez comme il s'aime.
Mais moi, ce n'est pas des attaques personnelles. Je trouve que le président, pour tout vous dire, c'est formidable d'ailleurs. C'est un président qui a toutes les qualités sans doute requises parce qu'il est intelligent, parce qu'il a une capacité d'avaler des informations.
Vous croyez vraiment que gouverner, c'est de s'exhiber chaque jour dans un uniforme différent, en faisant une activité ludique différente, réellement ? Vous croyez vraiment est là ?
Je pense que
comme Saddam Hussein, vous savez, à tous les carrefours déguisés en toutes sortes de
On va pas comparer
tenues.
Emmanuel Macron à Saddam Hussein, s'il vous plaît.
Non, mais le président omniprésent, est-ce que vous croyez que c'est ça ?
C'est pas lui qui a inventé le concept.
C'est pas ce que je dis. Je vous dis que il y a un tel décalage entre ses qualités réelles, qui sont indéniables, intelligence, et les résultats,
donc il devrait être ailleurs.
C'est ça que je dis. Voilà, je dis que personne ne peut contester.
Non, on peut renverser votre argument en disant qu'il remplit exactement ce pour quoi il a été élu, ce qu'il avait annoncé. Il avait un seul objectif, mettre la France aux normes de la mondialisation. De ce point de vue-là, le programme est parfaitement respecté. Est-ce qu'il y avait un autre objectif ? Moi, je ne crois pas. Même le mot de révolution, qui était son symbole, en fait, ça voulait dire la révolution.
C'est pas
la France va être aux normes de la mondialisation.
C'est pas ce qu'il y arrive. Il parle de simplification quand il y arrive. C'est pas ce qu'il avait vendu, me semble-t-il.
Ah bah bon,
est-ce qu'on peut voir simplement...
Il pas vendu,
est-ce qu'on peut voir cet homme de pouvoir il a fait un petit clip, d'ailleurs. Ah ben, c'est Stéphanie Frappard, d'ailleurs, qui arbitrera aujourd'hui. Donc, il a fait un petit clip pour vanter son bilan. Et on rappelle qu'il a été réélu.
Seul président de la République à être réélu hors période de cohabitation.
Donc c'est important. Mais comment ?
Contrairement à Giscard, qui était si intelligent lui aussi, et dont le bilan a été si
contesté. Peut-être que les campagnes étaient
si détestées. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Faut mettre des amis.
Plus parce qu'on le compare, parce que les deux, on compare les deux, par la jeunesse, par l'égotisme.
Pour des imbéciles, il y a sûrement des candidats. Hein.
Bon, écoutez, c'est quand même.
Dominique Jamais.
C'est quand même extrêmement simple, extrêmement clair. C'est un désastre.
Ah, oui,
sondage après sondage, on nous dit et on nous confirme ce que sont les préoccupations, les attentes, les inquiétudes, les demandes des Français. Pouvoir d'achat, école, santé, immigration, sécurité. Dans tous ces domaines-là, ils sont horrifiés ou simplement troublés par le bilan négatif du président, premier point. Et deuxième point, quand on voit ce qui est devenu la voix de la France à l'étranger, ça fait partie quand même aussi du bilan sur Gaza, sur l'Ukraine. le président n'a pas cessé de changer de position, de varier. Il n'a pas été capable de définir une ligne et on ne l'écoute pas. Et la presse, les médias sont quand même très indulgents sur la façon piteuse, voire ignominieuse, dont la France a été chassée de ses positions en Afrique.
Ça, c'est un pénalty.
Non, mais c'est vrai que la presse est très gentille avec Emmanuel.
Oui.
Globalement, je suis assez d'accord avec vous. L'espace médiatique est assez gentil. Mais il y a quand même des points positifs en Europe, non, ça vaut à porter.
Pardon.
Je cherche. Non, mais en Europe, il a essayé de faire des choses en Europe.
Ah, mais on va écouter avec attention son discours. Il a l'art d'arriver auprès de ses homologues en exhibant une idée nouvelle, en les mettant au pied du mur, qui va être aussitôt enterrée. Il n'y a aucune concertation. On est. Bon. Non, ça ne marche vraiment pas, je vous assure.
Bon, écoutons en tout cas son clip.
On peut toujours donner le Charles de Gaulle à commander à un amiral américain, mais ça ne change. Non, vraiment.
Mais ce qu'on peut mettre à son actif, ça vous aviez raison, c'est le rajeunissement et le renouvellement de la classe politique. Il a tellement dégoûté le public, les citoyens, les ministres en place, qu'on exige.
Vous vous rendez compte,
c'est un progrès de remplacer des vieux incompétents par des jeunes incompétents.
Voilà,
je comprends mal le concept.
Mais j'ai dit que le bilan d'Emmanuel Macron était sinon effrayant, du moins navrant, que de quelque côté que tu te tournes, c'est un drame. Et bien, il y a quand même quelqu'un qui ose m'envoyer un texto. Je trouve que devant Macron, tu baisses ton pantalon. C'est extraordinaire. C'est fascinant de dire ça. Comment les gens écoutent les émissions ?
Non, mais c'est l'une des curiosités, c'est qu'il a beau être de plus en plus aimable, de plus en plus photogénique.
Voilà, je dis simplement.
Il est amené sur le terrain, il est détesté. Moi, c'est ça qui me frappe le plus.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas de résultat.
Autant de gens en dire autant de mal.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas de résultat. C'est tout. Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'il y a une différence entre le potentiel. C'est comme Djokovic qui n'aurait jamais gagné un tournoi du Grand Chelem. Voilà. Je trouve qu'il a des qualités.
Il
a des qualités et le bilan est catastrophique. Voilà. C'est tout ce que je dis.
Et il a des qualités d'orateur, de comédien, peut-être de convive. Il n'a pas les qualités d'un président de la République. Bon. Il y a une autre chose, si vous me permettez, qu'on peut mettre à son actif. Il a quand même accéléré la déconfiture du Parti socialiste et la déconfiture des Républicains.
Oui, mais
les faux gaullistes et les faux socialistes sont en train de disparaître. Ça, c'est positif.
Oui, mais oui, vous allez voir. Bon, alors, est-ce qu'on peut écouter simplement, parce qu'on ne l'a pas écouté depuis tout à l'heure, son bilan. Son bilan. Donnons-lui la parole.
Je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer parce que je continuerai. Ce que je veux pour l'Europe, c'est d'être capable de répondre à la première des grandes transformations du monde, la transition écologique. Ce que je veux, c'est se battre pour plus de justice et de convergence sociale en Europe. Ce que je veux, c'est faire du cœur de l'Europe une puissance économique et industrielle.
Bon, on va continuer de le regarder pendant que nous parlons. Je vous assure, ce clip, je ne sais pas qui a eu cette idée de faire ce clip. C'est incompréhensible. Je ne vais pas vous dire, il y a une sorte de musique d'ascenseur en plus. Même ça, ils ne savent même pas faire un clip. Et en fait, si tu avais des bons résultats, tu les mettrais clairement, si tu veux. À la sortie du clip, tu ne sais pas, tu ne sais rien, tu ne comprends rien. En fait, c'est du glou.
Oui, la fin des voitures thermiques en 2035, par exemple. Alors, au moment où tout le monde dit qu'on n'y arrivera pas.
Mais personne, c'est des bêtises. On est en train de faire avec les voitures thermiques ce qu'on a fait avec le nucléaire. C'est la même chose. L'électrique, on n'est pas prêt. On le sera peut-être un jour. On n'est pas prêt.
Il y a un gros sujet sur les batteries.
Ce qui est intéressant, c'est ce dont il parle et ce dont il ne parle pas. Il y a deux dimensions qui sont absolument pas prises en compte. c'est les préoccupations immédiates des Français sur l'immigration, le pouvoir d'achat, etc. Et puis la dimension supérieure qui serait la prise en compte d'une angoisse existentielle par rapport à la France. Ça, c'est absolument pas pris en compte. Donc ouais. Il reste quoi entre les deux? Des mesures technocratiques, quoi.
Exactement. Voilà.
Donc ça ne parle à personne. Pardonnez-moi, ça ne parle à personne. Sauf aux technocrates.
Bien sûr, ce truc-là ne parle à personne. Je sais pas qui l'a inventé. Je sais pas. C'est pas le SIG, ça. Hein. C'est la formation du gouvernement.
Philippe Guibert n'y est pour rien.
S'attribuer comme il le fait dans ce clip, la relative bonne santé de l'Europe, où il n'est absolument pour pas grand-chose, disons. Oui. C'est quand même gonflé.
Oui, en fait, c'est assez significatif parce que depuis tout à l'heure, on a l'air de penser que Emmanuel Macron a des qualités et que par un biais absolument inexplicable depuis 7 ans, ça ne fonctionne pas. Nous, il y a certaines choses que veut Emmanuel Macron qui fonctionnent exactement. Vous pouvez être en désaccord avec ça, mais lui parvient à son but. C'est exactement ce qu'il vend là-dedans. C'est très technocratique, c'est uniquement européen et c'est l'accélération de l'intégration européenne et donc mondialiste.
Enfin, ça marche pas.
Non mais je dis, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. Voilà. Ça marche pas. À quelle aune en fait? C'est compliqué comme question.
Ça ne marche pas.
Là, il revendique un bilan sur cette intégration européenne, sur la place que lui a pris dans la construction européenne et donc potentiellement dans l'intégration mondiale. C'est initialement son seul. Très souvent, on dit c'est la seule conviction qu'il ait réellement. Mais c'est vrai. Et en plus, il faut reconnaître une chose, entre guillemets, à Emmanuel Macron, c'est que sur tous les sujets que vous avez évoqués, il arrive, il a avec lui son bilan et celui des 40 dernières années. Sur tous les sujets qu'on a évoqués, il y a aussi un bilan préalable. Quand vous disiez, on ne sait plus par quel chantier commencer, honnêtement, la question se posait pareil avant son élection.
Mais par exemple, là, ça fait 7 ans, jour pour jour, qu'il est au pouvoir quasiment. Les prélèvements obligatoires sont parmi les plus importants. Oui. On est le pays le plus prélevé au monde, quoi, en Europe en tout cas.
Et sa responsabilité.
Bon, ben là, il y est depuis 7 ans, il avait dit que ça changerait.
Précisément,
nous
sa
sommes
responsabilité.
D'accord. Donc ça, la simplification, vous savez, c'est simple, c'est pas moi qui le dis. Le Dalloz, publie le code civil, le code pénal et le code de travail. Le Dalloz a calculé le nombre d'articles réglementaires a augmenté de 53% en 20 ans. 53% en 20 ans. Il avait dit le contraire. Là, le CERFA. Donc il y a 1800, je crois, processus de CERFA. Monsieur le maire, et c'est bien dire, on fait sauter le CERFA. Mais c'est pour 2030. Donc tout le monde s'en fout en 2030 et ça sera encore changé. On est en 2024, il faut 6 ans pour enlever le CERFA.
Mais il y a des
injonctions. Enfin, c'est effrayant. Mais non, mais vous riez. Moi, je rêve un jour d'arriver à Bercy et de leur dire mais vous enlevez le CERFA demain matin.
Mais vous savez, il y a des injonctions extrêmement contradictoires.
Alors, peut-être que je comprends rien parce que je n'ai jamais été un petit homme gris. Peut-être que c'est pas possible, en fait. Peut-être que c'est Brésil, le film de Terry. C'est Brésil. C'est-à-dire que tu peux rien faire. C'est un truc de fou. Quoi.
Il a simplifié pour créer son auto-entreprise. Créer son auto-entreprise, maintenant, c'est très simple.
Oui.
20 minutes.
Non, mais il joue dans un cadre qu'il ne veut pas remettre en question. Aussi. C'est ça, la vérité, initialement. Là, sur ce que vous évoquiez, celui que je connais le mieux, c'est la question de la procédure pénale. Il n'a cessé d'expliquer qu'elle allait se réduire. Pour donner un chiffre simple pour comprendre, il y a 20 ans, les policiers en garde à vue passaient 65% du temps de la garde à vue à faire du travail d'enquête, le reste à faire de la bureaucratie. Aujourd'hui, c'est l'exact contraire. Ils passent 65% du temps à remplir des papiers, le reste à faire des enquêtes. Il ne faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. Devant ce constat-là, Emmanuel Macron n'a cessé de dire « on va la simplifier ». Résultat, la dernière complexification, elle date de novembre dernier. Pourquoi ? Parce que c'est une mise à jour aussi par rapport aux directives européennes, notamment sur la question de la garde à vue. Vous avez des injonctions contradictoires parce que le cadre qui s'impose, c'est exactement la même chose dans la loi immigration. Gérald Darmanin n'a cessé de dire « moi je suis ministre de l'Intérieur, je ne peux faire qu'une loi ordinaire ». Il faut décrypter ce que ça veut dire. Je ne peux jouer dans un cadre que le président de la République ne veut pas remettre en question. C'est tout.
Il ne peut rien faire, en fait.
On pourrait. C'est précisément ça. Il faudrait remettre en question.
Je pense que le bilan d'Emmanuel Macron correspond à ses objectifs. Moi, si vous lui demandez sincèrement... Je pense que si vous lui posez la question, sincèrement...
En tout cas, il y a une hiérarchie.
Non, je l'assure, je ne crois pas. Je crois que justement...
Regardez, il n'a pas l'air angoissé. Il n'a pas l'air d'un homme en échec. Selon lui, ça va.
Il faut quand même se rappeler que le titre de son livre... En 2017, révolution. C'était révolution.
Oui, je ne crois pas. Je crois que
faire le contraire ou autre chose, en tout cas, voilà. Que mes prédécesseurs.
On n'avait pas peur, n'est-ce pas?
Bon, on va recevoir Richard Millet. Mais alors, je ne comprends pas, on devait être avec également Noémie Schulz. Mais Noémie... on est avec Richard Millet maintenant. Donc, effectivement, Oui, on va en parler pendant la publicité. Effectivement, je pense qu'il est possible qu'on traite cette affaire demain. 9h53, on fait l'émission en direct.
Ah oui, c'est bien.
Avec, on est en conférence de rédaction avec Marine Lançard. Marine
me parle. C'est-à-dire que vous dialoguez et nous, on a un mot de
Mais c'est Marine.
Il a des voix.
C'est Marine, la chef.
Il est inspiré.
C'est Marine Lançard, la chef. Moi, je ne suis que son...
Vassal.
Bon, on veut bien être vassal quand le suzerain est grand.
Je crois qu'on n'ira pas plus haut. Là.
N'oubliez jamais.
Moi, j'ai reçu une demi-heure.
Envoyez la pub.
Ah bon, non, mais bon, voilà. Envoyons. À tout de suite. Nous sommes avec Richard Millet ce matin. Je le remercie grandement. La nouvelle librairie édition, vous venez de publier Nouveau lieu commun, exégèse, exorcisme. Merci parce que vous êtes devenu un infréquentable. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Plus personne ne vous reçoit sur aucun plateau de télévision alors que vous étiez... au centre de la vie littéraire, il y a encore quelques temps. Et un jour, Madame Ernaud, effectivement, contre vous, a désigné une fatwa.
Oui, fatwa. Fatwa laïque.
Parce que vous aviez écrit un livre qui ne lui convenait pas. Elle avait demandé à tous les éditeurs, toutes les écrivains de Gallimard de faire une pétition.
Je ne sais pas si on a bien mesuré la rupture civilisationnelle. Avant, la censure, c'était verticale.
Oui.
Là, c'est horizontal. C'est-à-dire, c'est les pères d'un écrivain qui demandent son interdiction.
Oui.
Ça, c'est une grande nouveauté quand même.
Oui. Mais bon, M. Gallimard, il a peut-être aussi une responsabilité, forcément, puisque c'est le patron.
Le courage des éditeurs n'est pas leur première vertu. Hein, donc,
voilà. Et qu'est-ce qu'on vous reprochait, M. Millet ? Bonjour.
Bonjour. On me reprochait d'avoir fait l'éloge d'un terroriste norvégien, Breivik, sans avoir lu, bien sûr, le texte, qui était un texte extrêmement ironique, dans lequel je condamnais, bien sûr, les actes de ce criminel. Mais je disais surtout qu'au fond, Breivik était le révélateur de la décomposition de l'Occident, et plus particulièrement de l'Europe. J'allais quand même préciser que ça avait partie liée à l'immigration, surtout dans des pays extrêmes, si vous voulez, comme la Norvège. Et ça, bien sûr, c'était intolérable. Donc voilà. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, dans cette affaire en 2012, c'est que personne n'avait lu le texte. On s'était contenté du titre. Il est vrai que le titre était un peu percutant, Éloge littéraire d'Anders Breivik. Mais ne pas vouloir voir que c'était un titre ironique, c'était quand même pousser le bouchon assez loin.
Mais si vous voyez, ça avait été... pardon, je vous interromps, mais le parallèle qui peut paraître choquant avec une fatwa. Le type qui a poignardé Salman Rushdie, là, il a perdu un œil dans l'affaire, s'était arrêté à la page 2 des versets sataniques. Donc c'est la même chose. Oui, Ce sont des gens, en fait, qui... alors là, ils passent à l'acte criminel, mais qui prononcent une interdiction sans avoir même lu le livre. Donc c'est une question de principe, des pétitions
alors,
de principe.
Alors Soumaïa Labidi est avec nous et nous rappelle les titres, parce qu'il est 10h02. Et après, évidemment, on écoute M. Millet. Et ça va être passionnant de vous écouter, parce que vous serez reçu sans doute sur ce plateau, et sans doute... sur peu de plateaux, pour ne pas dire...
Nulle part ailleurs.
Nulle part ailleurs.
Voilà.
Et je remercie évidemment également Gauthier Lebret qui était avec nous ce matin, puisque Noémie Schulz va venir nous rapporter, nous informer d'une affaire extravagante en matière de justice. Soumaïa.
L'inquiétude des salariés de Casino, plus de 3000 postes menacés au sein du groupe. Le projet de réorganisation prévoit déjà 1293 suppressions d'emplois, dont 554 rien qu'à Saint-Étienne. Une balle tirée depuis sa caravane, c'est ce que révéleraient les premières expertises dans l'enquête sur l'affaire Kenji Girac, selon Le Parisien. De quoi corroborer la thèse de l'accident, même si d'autres analyses sont attendues, tout comme l'audition du célèbre chanteur. Et puis ces images incroyables en Grèce, un spectaculaire nuage de sable du Sahara a envahi le ciel d'Athènes, du jamais vu depuis 2018, expliquent les météorologues. Toutefois, le phénomène devrait commencer à s'estomper dans le courant de la journée.
Merci Soumaïa. Richard Millet est donc avec nous, Nouveau lieu commun, exégèse, exorcisme. Et vous nous racontiez pourquoi vous aviez été blacklisté. Vous n'apprécierez sans doute pas ce mot, qui est un mot de franglais.
Expulsé de la République.
Expulsé et aujourd'hui, effectivement, alors que vous étiez, on a même dit de vous, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que vous aviez écrit Les Bienveillantes.
Non. Je travaille avec l'auteur, disons.
Jonathan Little.
Voilà. En réalité, si vous voulez, sans vouloir revenir trop en arrière, c'est pas tellement pour ce que j'ai écrit sur Breivik qu'on m'a expulsé, c'est plutôt pour ce que j'avais écrit sur la médiocrité de la littérature française en général, de cette époque, et notamment des vaches sacrées du genre Le Clésio, vous voyez. des bien-pensants. Et ça, ça ne m'a pas été pardonné. Et on a profité de ce moment-là, de ce petit texte provocateur, je le reconnais, pour m'expulser. Au fond, vous voyez, la République des lettres ne supporte pas qu'on critique ses pairs. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de langue, vous le disiez tout à l'heure.
Les malveillants.
Bon, alors c'est vrai que ce que vous dites, je le disais tout à l'heure, est particulièrement sombre et pose question. Jamais le monde n'a été aussi abject en tout lieu et pour des raisons qui se rejoignent plus qu'elles ne divergent dans une société qui a fait du mépris un mode de gouvernement. Bon, ça c'est contestable. On peut dire que le monde a toujours été horrible, oui. qu'il a toujours été cruel, que lorsqu'on sait ce qui se passait en France au 15e, 16e, 17e siècle et bien avant, il était sans doute plus cruel. Qu'il ne l'est aujourd'hui. J'ai quand même le sentiment qu'on est plus civilisé, entre guillemets, que nous l'étions il y a 500 ans.
Vous trouvez ?
Ah oui, je pense par exemple qu'il y a 500 ans, quand tu lis les mémoires de Casanova, tout le monde est là à voir ce pauvre Damien qui va être tué en place publique pendant des heures et tout le monde achète des places et tout le monde trouve ça rigolo et tout le monde trouve ça formidable et qu'aujourd'hui on ne fait pas ça, oui.
Mais aujourd'hui, tout le monde achète des places pour regarder autre chose qui vaut le supplice de Damien, même si ce n'est pas aussi spectaculaire, aussi cruel. Je veux dire par là que vous avez des lynchages constants, vous avez des peuples qui meurent. Je vous rappelle que, par exemple, qu'aujourd'hui, c'est le 109e anniversaire du génocide arménien.
Oui, je voulais en parler d'ailleurs.
Que le Liban souffre énormément du Hezbollah. Que la poussière du Sahara est peut-être celle de Gaza qui tombe sur Athènes, en réalité.
Bah, ça montre bien s'il y a eu génocide, d'ailleurs, que c'était il y a 100 ans, plus de 100 ans d'ailleurs, déjà ce monde était horrible, que c'est l'histoire des hommes.
Mais en attendant, je regardais, il y avait un terme qui m'interrogeait, comme on dit, avec un lieu commun, c'était hyperviolence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on parle aujourd'hui d'hyperviolence et plus de violence ? Vous voyez ? Rien que ce petit mot... a beaucoup de sens et d'une manière de vous répondre. Si on parle d'hyperviolence, c'est que la société est encore plus violente et plus irrationnellement violente qu'avant. Pourquoi hyperviolence alors qu'il y a
moi, je
violence.
Suis d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai envie de vous inviter parce que vous dites des choses que les autres ne disent pas et ce que vous venez de dire est très juste à l'instant. C'est-à-dire que c'est un fralangage, je ne sais pas comment on dit, ces mots valises qui sont employés partout. Vous êtes un intellectuel, un littéraire qui nous permet de réfléchir comme les autres ne réfléchissent pas. Et c'est pour ça, je trouve dommage d'ailleurs, qu'on ne vous entende pas. Alors, vous dites, depuis plus de 15 ans, je ne lis plus la presse.
Oui.
Même celle qui, comme le Figaro, quotidien socialocentriste, prétend donner la parole aux contestataires. Tout le monde se voulant tel aujourd'hui, mais plus que rare étant les relégués dans la Sibérie de l'esprit. Je ne regarde pas non plus la télévision, n'écoute plus jamais la radio, ne supportant plus ni ce qui est dit, ni la façon dont on le dit. Encore moins la prononciation du français par les jeunes gens, y compris les acteurs de cinéma trop souvent inaudibles. Ma mère, elle me dit ça. Elle dit, je comprends rien maintenant. Avant, j'écoutais Robert Hirsch, Jean-Pierre, je comprenais. Ils parlent mal. Ils articulent pas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais c'est sombre, c'est-à-dire que tout... D'abord, c'est pas rigolo peut-être votre vie, puisque vous vous coupez de tout.
Non, on m'a coupé de tout, donc maintenant je fais avec.
Ah si non, vous pourriez écouter la radio ou la télé.
Non, c'est insupportable. Écoutez, je vais vous faire une confidence. En attendant... attendez, laissez-moi parler. En attendant, tout à l'heure,
très bien.
J'ai fait quelque chose, j'ai fait une découverte.
Oui.
J'ai entendu pour la première fois la voix de Macron.
Ah oui,
je n'avais jamais écouté la voix de Macron, je ne savais pas quelle voix il avait. Donc j'étais sous un écran.
Mais vous vivez où ?
Je vis en banlieue, dans une banlieue pas trop moche, pas trop...
Non mais là vous trichez, c'est pas possible.
Non, je ne triche pas.
Non, c'est pas possible. Là, par exemple, je ne vous crois pas.
Pourquoi ?
Et parce que c'est impossible.
Non.
Vous n'avez jamais entendu la voix d'Emmanuel Macron ?
Je n'ai jamais entendu la voix de Macron.
Si vous saviez que c'était Emmanuel Macron qui était président, vous ne pensez pas que c'était Georges Pompidou quand même ?
Je sais bien qu'il est président. Je lis de temps en temps des titres sur mon téléphone.
Mais il parle tout le temps pourtant.
Oui, mais j'essaie d'échapper à ça.
Franchement. Écoutez,
quand on est un intellectuel, on n'a pas envie de se laisser submerger par cette parole, qu'elle soit politique, publicitaire ou ce que vous voudrez. Vous voyez ? Donc, on essaie d'échapper à ça. C'est une manière de se préserver.
Mais alors, qu'est-ce que vous faites de vos journées ?
Je lis, j'écris, je regarde les nuages. Je téléphone à quelques rares amis qui me restent. Enfin bon,
Mais moi, je voudrais revenir au thème principal de votre livre.
Alors, voilà,
nous sommes engagés dans une guerre civilisationnelle, une guerre existentielle, et vous exposez, à travers 300 poncifs, que cette guerre est avant tout une guerre des mots et du langage. Celui qui contrôlera les mots, celui qui contrôlera le langage, gagnera cette guerre. Alors, évidemment, là, pour l'instant, vous êtes en train de la perdre parce que vous êtes très minoritaire, d'autant que vous avez une idée de la langue très haute. Vous voyez bien la langue se dégrader
jour après jour. Et ce n'est pas seulement une dégradation formelle, c'est aussi une dégradation intellectuelle. Vous naviguez contre le vent, par vent contraire, et vous essayez de retarder le moment de la défaite du langage. Pour moi, le langage, c'est le thème principal de votre livre.
Oui, bien sûr. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, si vous voulez.
Bien sûr.
Orwell avait déjà dit que celui qui manipulait la langue ou celui qui laissait se détruire la langue, c'est-à-dire l'État qui laissait se détruire la langue, ouvrait la porte à tous les totalitarismes. Donc vous voyez, ça date d'il y a 100 ans. Mais à force de le répéter, c'est devenu un lieu commun aussi, et on n'y fait plus attention. Il suffit de citer de... Oui, non, moi j'aime beaucoup Guy Debord, et vous dites ce que vous voulez. Vous voyez ? Donc... Il faut faire extrêmement attention. Que le combat soit perdu, je suis d'accord avec vous. Mais
il est perdu.
Oui, c'est perdu.
C'est aussi parce que le langage est malade que les forêts brûlent, que le plastique s'immisce au cœur des océans, comme dans nos cellules, que le pétrole nous infeste autant que l'islamisme, que les violences faites à la vérité sont quotidiennement exercées par les journalistes, post-écrivains, publicitaires, politiciens, sociologues, stipendiés, pour ne point parler d'enseignants qui, pour beaucoup, ignorent ce qu'ils sont censés enseigner à des élèves qui, il est vrai, veulent moins apprendre que demeurer dans l'ignorance consumériste. Bon, d'abord, c'est somptueusement écrit. C'est une intelligence...
Et c'est somptueusement vrai.
Alors, c'est...
Hélas,
c'est une intelligence très précise, avec un art de la synthèse et des mots, forcément. Bon. Et je trouve intéressant que vous questionniez, effectivement, comme le dit Eric, notre époque là-dessus. Mais que faire ?
Mais je ne sais pas. Il faudrait tout reprendre à zéro. Refonder l'éducation nationale à 100%, si vous voulez, par exemple.
Mais quand est-ce que ça a bien marché, selon vous ? Est-ce qu'un jour, ça a bien marché ?
Écoutez, j'ai été professeur il y a 40 ans, avant la réforme ABI. C'est-à-dire avant la réforme qui mettait tout sur le même plan. Donc il y avait ce qu'on appelait des classes de niveau. Les petits ministres, aujourd'hui, essaient de recréer ça, mais ça ne marche pas. Donc les classes de niveau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouviez enseigner la même chose à des classes complètement différentes. Il n'y avait aucune discrimination, contrairement à ce qu'on... prétendre aujourd'hui. Donc voilà, recommencer tout ça, revaloriser, parce qu'aujourd'hui la langue est méprisée par tout le monde, et, comment dirais-je, avoir le sens de l'héritage, et peut-être aussi arrêter de se soumettre à une religion qui aime la soumission.
Si alors, ça, c'est un autre.
Je ne veux pas aller dans la 17e chambre tout de suite. Donc,
C'est un autre chapitre, effectivement.
Non, c'est le même. C'est le
que
même.
Vous dites, ça fait partie. Vous dites, c'est qu'on n'imagine pas l'ampleur de la haine doctrinale et historique que nous vouent les musulmans. Même ceux qui n'agissent pas par le glaive ou les bombes, mais tentent de prendre les imbéciles au piège du discours postcolonial quand ce n'est pas l'intimidation, le droit, le lobbying des frères musulmans et des pétro-monarchies. Et les utiles idiots de l'islamo-gauchisme, souvent maqués avec des musulmanes et donc plus radicaux que les islamistes. Une religion d'amour, l'islam ? Autant demander à un émir de Daesh de disserter sur l'imitation de Jésus-Christ ou à Ben Laden d'apprécier une homélie de Benoît XVI, dites-vous. Alors, ce qu'on pourrait vous rétorquer, c'est ce qu'on rétorque parfois, d'ailleurs, ce qu'on dit parfois aussi à Éric Zemmour, c'est-à-dire, c'est la généralisation. On sait qu'on n'imagine pas l'ampleur de la haine doctrinale et historique que nous vouent les musulmans. C'est ça qui est choquant. Moi, j'en rencontre des musulmans dans CNews, etc. Et souvent, ils peuvent me dire, mais tous les musulmans ne pensent pas de la même manière. Ils sont peinés, choqués quand on les...
Ils descendent dans la rue, qu'ils manifestent chaque fois que quelqu'un se fait poignarder. Et là, je reconsidérerai ma position. Vous savez, j'ai quand même grandi au Liban et je connais assez bien la question. Le Liban est un pays multiculturel, officiellement, et multireligieux, officiellement. Mais vous avez vu ce qui se passe ? Il est sous la coupe du Hezbollah et les chrétiens sont quasiment foutus. Le sort des chrétiens en Orient n'intéresse absolument personne, alors que quelques Gazaouis font pleurer tout le gauchisme culturel.
C'est pas pardonnez-moi, mais... le modérateur, pas quelques Gazaouis.
Pardon ?
Pas quelques Gazaouis. Attendez. Là, c'est ce qui se passe, et on le sait, et là, Vincent Herouet peut aussi intervenir. C'est-à-dire, quoi qu'on pense de ce qu'a fait le Hamas, et on pense tous la même chose, qui est une organisation terroriste qui est arrivée le 7 octobre, le malheur des enfants de Gaza, qui sont bien souvent les otages du Hamas, sont à prendre en compte.
D'accord.
Et la manière dont vous vous exprimez, forcément, peut être choquante.
D'accord, je retire. Donc,
voilà.
Nombre de Gazaouis.
Voilà. Non, mais vous voyez, quelques Gazaouis, comprenez.
Non, je comprends ce que vous dites. Bon, mais c'était une hyperbole négative.
Oui.
Voilà. Donc ça fait partie du discours.
Oui, j'entends bien, mais...
Non, non, mais j'ai compris, d'accord.
Le sort des chrétiens d'Orient n'arrête pas de mobiliser toutes sortes d'académies, de groupes. C'est très à la mode, au contraire.
Pas c'est
très
à la mode, vous trouvez ? Vous y êtes allé ?
Non, mais en revanche, le fond de votre analyse, c'est de penser que là où l'islam est majoritaire, les chrétiens sont persécutés. C'est ça que vous voulez dire, et vous citez le Liban.
Non, je ne dis pas exactement ça. Je dis qu'il y a un mouvement de l'islam qui vise à épurer toute cette partie du monde et que la guerre actuelle entre le Hamas et Israël est en réalité une guerre entre l'islam et le judaïsme. C'est beaucoup plus profond. Et par contre-coup, contre les chrétiens aussi d'Orient. Vous voyez, bon, ce n'est pas le sujet de cette mission, mais ça nous entraîne très loin.
Non, mais c'est intéressant.
Je reviens à ce que vous disiez. Oui, bien sûr, moi aussi j'ai discuté, et je discute encore avec des musulmans qui sont un peu moins cons, si vous voulez, ou un peu moins obtus que beaucoup d'autres. J'ai dit beaucoup d'autres. Mais je vous dis, il n'y a pas de spontanéité dans les réactions, si vous voulez, de ces gens-là. Jamais vous ne les voyez. Alors peut-être qu'il n'y a pas de spontanéité parce qu'ils sont surveillés par leurs coreligionnaires. C'est bien possible. Mais moi, j'aimerais voir ces gens-là se précipiter et dire « Nous aimons la France, nous aimons la culture française, nous partageons votre culture, nous voulons devenir absolument français, être considérés comme les autres. »
Ça a été une réalité pour ceux qui sont sans doute arrivés dans les années 60, 70, qui voulaient devenir parfois plus français même que les Français. Et effectivement, cette assimilation dans les années 90 ou 2000, pour aller à grands traits, c'est moins bien faite. Voilà. Et c'est ça le paradoxe, c'est la troisième ou quatrième génération est moins assimilée peut-être que la première. Peut-être.
Souvenez-vous Mitterrand qui parlait, qui avait le culte de la différence. C'était un grand mot, un grand lieu commun de l'époque.
Tout à fait.
La différence.
Oui.
Vous voyez, donc la différence, ça a donné quoi ? Ça a donné le communautarisme et le séparatisme religieux, etc.
Il y a une question de Pascal Praud qui est restée en suspens. Pascal Praud, vous demandez tout à l'heure, au fait, l'éducation, quand est-ce que c'était mieux ? Moi, à travers le prisme de la littérature, je lis Le premier homme de Camus et je vois des enseignants qui essayent d'enseigner le savoir, ce qui paraît une tautologie, mais pas tant que ça. Je lis maintenant des romans contemporains, Patrice Jean, Jérémy Delsart qui vient de faire paraître Le miracle de Théophile, et je vois une éducation nationale qui est vouée à l'enseignement de l'ignorance. Donc je pense que ça s'est dégradé. On voulait élever les enfants, maintenant ça paraît un concept, la verticalité paraît un concept fasciste, là on essaie de les... d'abaisser le niveau pour parvenir à leur niveau au lieu d'essayer de les élever. Ça me semble la différence cruciale, moi.
Et le problème dans cette différence, c'est que c'est la langue qui s'est perdue.
Évidemment.
La langue n'est plus un critère. Il faut avoir un bachelier qui ne sait pas le français. Donc c'est quand même
et un paradoxe. Prof maintenant. En
alors, et les profs maintenant.
C'est un tour d'horizon, évidemment, de beaucoup de choses que vous abordez. Le monde où nous avons été élevés, où nous avons aussi élevé nos enfants, n'existe déjà plus. Quoi qu'en disent les uns et les autres. Céline, dès les années 1960, avait prédit non pas tant sa chute que sa dimension misérable, insignifiante, moins un moraliste qu'un homme qui, en dépit de ses fautes, en connaissait assez sur le monde pour dire qu'il est trop Jean-Foutre, nicotinisé, alcoolique, aéroporté, blabla vœu pour qu'on ne trouve pas tout naturel qui n'existe plus.
Oui, mais il avait tout dit. Dans ces moments
ah oui, mais alors donc c'est en 60, c'est pour ça que... Mais... En fait, quand on est confronté à ceux qui sont les plus sombres, on prend une phrase d'il y a 50 ans, et les plus sombres, il y a 50 ans, disaient la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. Donc on se dit finalement, le monde a toujours été sombre pour certains.
Et Céline a été blacklistée comme vous l'avez été.
Plus que moi.
Il avait commis des crimes un peu
non, mais
plus graves.
Vous comprenez,
oui, mais il est revenu, pardon.
Vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez, vous dites, Céline avait déjà tout dit. Bon, bah donc c'était en 60, et là, c'était en 60, c'est au moment où De Gaulle arrive.
Mais le langage et le devoir d'un écrivain ou d'un intellectuel, c'est de revenir constamment à la charge, de combattre. Voilà. Avec les armes légères, les kalachnikovs, qui sont les nôtres, c'est-à-dire la langue.
Bon, la rentrée littéraire. Alors, moi, j'adore ce que vous dites, parce que je veux pas dire du mal, mais il y a eu un prix Goncourt. Il y a deux ans, c'était Brigitte Giraud, non ? Qui avait eu Brigitte Giraud, qui avait eu un prix...
Extraordinaire.
Ça, je trouve que celui-là, c'est le...
C'était un article de Elle étiré sur 120 pages, pam, prix Goncourt. Alors là, je pense qu'on avait touché le fond. Enfin, je suis peut-être un peu optimiste.
Non. Bon, mais bon, moi, je n'ai pas votre expertise littéraire, ni celle d'Éric. Hein. Je suis vraiment... Je vous fais confiance. Bon, la rentrée littéraire est donc un système de contrôle de ce qui porte encore le nom de littérature, laquelle obéit en réalité à une logique de l'indifférence, où les livres n'ont plus besoin d'être écrits, ni même lus, mais simplement de se trouver là, dans leur illisible visibilité, sur les tables des libraires, avant d'être pilonnés, désancrés, souvent recyclés en papier hygiénique. Il n'y a pas un livre, par exemple. Alors, moi, j'aime bien Emmanuel Carrère, par exemple. Je trouve que c'est un très grand écrivain.
Non, ah bon. Il ne sait pas écrire correctement français.
Mais alors, pourquoi, moi, je trouve que c'est bien? Je suis
parce qu'il a...
Non, mais pourquoi je trouve, que Houellebecq, c'est intéressant?
Carrère, c'est un journaliste qui écrit des livres intéressants, il fait des enquêtes, il fait des choses comme ça. Oui, mais du point de vue de la langue, c'est sans intérêt. C'est tout. Il n'y a pas de style.
Mais il n'y a pas que ça dans la langue. Alexandre Dumas, personne ne se demandait.
Alexandre Dumas, c'est pas un bon écrivain.
Ah bon,
il collaborait, il avait des collaborateurs.
Ah oui, bon, là, oui.
Mais oui, mais le dit lui-même.
Alors, qui est un grand écrivain français?
Je sais pas, Chateaubriand, Bernanos, Léon Blois, plein.
Mais Mauriac.
Mauriac est un bon écrivain, oui.
D'accord.
Trop de gauche à la fin de sa vie, mais.
Non, mais.
Trop décoré.
Oui, mais.
Non, mais c'est un grand styliste, Mauriac.
Pardonnez-moi, il y a deux traditions dans l'écriture. Il y a ce que vous dites, vous, le langage, l'écriture, effectivement, le style, mais il y a aussi la qualité de raconter une histoire. La qualité de créer des archétypes.
Oui.
Dumas, quand il fait Les Trois Mousquetaires, Monte Cristo, c'est des archétypes, c'est une histoire. Ça compte quand même dans la littérature.
Je suis d'accord, mais vous me
Dites que ce n'est pas un bon écrivain. Il n'y a pas que le style dans l'écriture, dans l'écrivain.
Pour moi, le style passe avant tout. Voilà, c'est tout. Sinon, il se confond, il se dilue très vite dans le journalisme, pardonnez-moi, ou dans la doxa. Oui. Voilà.
On vous pardonne, mais n'en rajoutez quand même pas trop dans le mépris pour les journalistes.
Bon, et là, par exemple, dans la jeune. Mais il n'y a pas une génération dans la jeune génération aujourd'hui, Houellebecq, qui sont. Emmanuel Carrère et Houellebecq, c'est souvent les deux qui sont cités aujourd'hui parmi les écrivains les plus intéressants. Aucun des deux n'a grâce à vos yeux.
Houellebecq m'intéresse pour un certain nombre de choses, mais pas comme styliste. Je peux vous relever toutes les fautes de français qu'il commet dans chacun de ses romans. Mais peu importe, il y a un ton, si vous voulez. Il y a un temps aussi chez... Voilà. Si, vous parlez de Patrice Jean, j'ai dîné l'autre soir avec lui, j'ai beaucoup aimé, nous entendons beaucoup, il m'a raconté beaucoup de choses sur l'éducation nationale qui m'ont fait frémir d'ailleurs, vous voyez.
Bon, les Champs-Élysées, alors j'adore aussi parce que vous êtes un provocateur, donc c'est formidable. Moi, je vous assure, entendre des gens qui disent, d'abord qui disent qu'on dit que des bêtises, moi ça me fait plaisir, vous me dites, je regarde pas les journalistes, je vous écoute pas, moi j'adore ça, au contraire, je trouve ça formidable que vous veniez sur le plateau de CNews pour dire, j'ai jamais entendu la voix d'Emmanuel Macron. Bon,
ah ouais,
je sais pas d'ailleurs, et cette voix, vous en avez pensé quoi d'ailleurs? Parce que je vous ai pas posé la question.
Qu'elle était insipide. Alors, sans style.
Voilà. Sans style.
C'est un peu l'Emmanuel Carrère de la politique, quoi.
Bon.
On vous réinvite.
Mais alors vous, par exemple, parce que vous écrivez des livres, vous êtes un grand écrivain?
Non.
Si. Ah non plus?
Non.
Non mais sérieusement, parce que vous avez écrit des romans, vous avez écrit beaucoup de choses. Moi, j'ai lu des choses de vous très intéressantes, d'ailleurs.
Non mais c'est pas à vous de le dire, mais vous êtes reconnu comme tel.
Sérieusement?
Je vais pas répondre à ce genre de questions, sérieusement.
Vous avez le droit, mais vous parlez des autres.
Je suis extrêmement humble devant ce que je fais et je suis pas sûr que ça restera, voilà. Donc j'espère un jour, avant de crever, assez bientôt maintenant... écrire un livre qui permette...
Vous êtes sombre, pourquoi vous voulez mourir tout de suite?
Je suis lucide, je veux dire, à l'âge que j'ai, il ne me reste pas beaucoup de temps.
Mais quel âge vous avez?
71.
Bah, il vous reste 20 ans. Bon, il vous reste 20 ans, ça vous apprendra. Bon, attendez. Bon, les Champs-Élysées, c'est l'avenue la plus moche du monde, j'adore ça. Formidable, puisqu'on dit toujours c'est la plus belle... Mais il a raison.
Bah, c'est vrai.
Mais il a raison, moi je suis d'accord.
C'est un cauchemar climatisé.
Mais il a parfaitement raison, je ne l'avais jamais formulé comme ça, mais en fait c'est l'avenue la plus moche du monde.
Mais je suis d'accord.
En vérité, le Parisien qui se respecte évite les Champs-Élysées.
Oui.
En plus, ça me fait toujours rire. C'est comme Suran, je trouve que Suran c'est l'auteur le plus rigolo que je connaisse. Tu lis Suran, tu te marres. Bon. En vérité, le Parisien qui se respecte évite les Champs-Élysées. Ce dépotoir pour touristes du golfe Persique et pour la racaille de banlieue harcelée par des Roms, des mineurs non accompagnés, d'autres chapardeurs encore très actifs au sein d'une capitale où les Français authentiques deviennent méconnaissables, où ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient et que les Champs-Élysées, au lieu prostitutionnel, l'avenue la plus moche du monde.
Ah oui. C'est vrai, j'y suis passé il y a une semaine encore, oui. J'ai vérifié.
Ouais.
Contester cette description.
Il nous reste 5 minutes, alors...
Il y a un point sur lequel le destin de Richard Millet et ses propos méritent d'attirer l'attention. C'est le décalage croissant qu'il y a dans notre pays entre le respect théorique et allégué pour la littérature, le spectacle, la danse, la musique, et le mépris réel dans lequel notre société tient les écrivains, les créateurs. C'est là qu'il y a aussi un élément de décadence incroyable. Au XIXe siècle, au début du XXe siècle, la considération dans laquelle était la littérature n'a plus rien à voir
ah oui, mais
avec
parce
la
que
place
le monde...
qu'elle tient dans la société.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais bon, bien sûr, mais il n'y avait pas d'écran. Les gens ont grandi, ceux qui sont nés avant-guerre.
Il y a le langage théorique, la France est toujours la mère des arts, des lois, etc. Et la réalité, l'écrivain dans notre société n'a plus du tout la place qu'il a eue à un certain moment.
Par exemple, vous ne regardez jamais la télévision, mais vous connaissiez notre émission CNews
Non.
Comme, par exemple, vous comme M. Hervouet, tout ça, vous ne connaissiez pas.
Je connais Eric Nolot, mais...
Eric Nolot, bon. Mais la télé... Alors, il n'y a pas de télévision chez vous?
Non.
D'accord. Un ordinateur?
Un ordinateur, oui. Je regarde YouTube.
D'accord. Non, mais vous avez raison.
Concerts sur YouTube, des choses comme ça.
Les concerts?
Oui.
Par exemple, hier soir, vous avez... Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, par exemple?
Hier soir?
Oui.
J'ai dû regarder The Walking Dead, une série, pour voir... j'ai reconnu Annie Arnaud dans les zombies et des gens comme ça, vous voyez, donc...
Mais Annie Arnaud, par exemple. Moi, j'ai lu Annie Arnaud. Oui. Franchement, je trouve que ça... Pardonnez-moi, je vais vous choquer. Les années, je trouve ça bien. Je vous assure, je trouve ça bien. Je trouve qu'elle raconte une période, une histoire de ce qui a été sa vie, de sa famille, de ses, comment dire, de là où elle a grandi en Normandie. Ça m'a touché. Moi, j'ai toujours lu ces bouquins. Autant j'ai du mal. D'ailleurs, chose scandaleuse, évidemment, ce qu'elle avait fait avec vous. Ses idées politiques ne sont pas les miennes, mais je trouve que ce qu'elle écrit est intéressant. Donc, c'est pas de la littérature.
Je n'ai jamais lu Annie Arnaud.
Ah oui, alors pourquoi vous en... Bah, comment... alors,
moi, j'ai, là, j'ai on pas peut parlé, pas en parler. Je n'ai pas parlé de la littérature d'Annie Arnaud. Là.
D'accord.
Ouais. Non, mais... parlé de son physique, donc c'est très différent.
Mais Modiano, par exemple, qui a eu le... Vous, c'est un grand écrivain qui a eu le prix...
C'est un bon écrivain mineur.
Donc...
C'est un bon écrivain
Est-ce
mineur.
Est-ce qu'il y a un seul grand écrivain parmi tous ceux qui vous ont persécuté? Parmi les pétitionnaires contre vous?
Non, pas un grand écrivain, non.
Il n'y en a pas un dont la signature vous a fait de la peine?
Non, ce qui m'a fait de la peine, c'est certains auteurs que j'avais chez Gallimard et qui ont signé contre moi. Ça, oui, ça m'a...
Ah oui, ça, je vous comprends. Donc, ah oui, mais là, si vous voulez...
Après tout, j'étais...
Si vous voulez de la fidélité, prenez un chien.
Non, mais j'étais naïf encore, vous voyez.
Voilà, voilà. Oui, là, ça m'étonne de vous que vous soyez naïf. Mais on l'est toujours, finalement.
On
tout beaucoup est mi fini.
Voilà.
Bon, les territoires perdus de la République, en France et dans maintes banlieues européennes, perdus signifie conquis par l'islam. C'est là que c'est intéressant, parce que je ne dis pas que vous ayez raison ou pas. Je dis que vous prenez les mots valises, et vous les voilà, vous dites attention, ce qu'on vous raconte, voilà ce que je vous propose moi, et puis après réfléchissez. En fait, vous aidez à réfléchir. Et ça, je trouve que c'est vraiment intelligent. En France et dans maintes banlieues européennes, perdus signifie conquis par l'islam. Bien sûr que les mots ont un sens. Quand tu dis territoire perdu. Ah oui, c'est intéressant ça.
Vous faites de la France une certaine idée du Liban, non?
Et je termine si juste j'ai... par la phrase. Oui.
Pardon, je réponds à monsieur. Oui. Si oui. J'ai une certaine idée du Liban.
Vous faites de la France une certaine idée du Liban. Bah, effectivement, l'avenir est sombre dans ces cas-là.
Oui, mais je pense qu'il est très sombre. Enfin,
En France et donc dans maintes banlieues européennes, perdu signifie conquis par l'islam, les cités devenues des concentrés de Gaza sous l'œil vigilant des islamo-gauchistes qui les défendent ou les justifient. Dans la presse officielle, les universités, le monde éditorial. Je comprends que vous ne soyez pas invité à France Inter. Hein, ils ne vont pas vous recevoir, ni Léa Salamé à quelle époque. Hein, ça, je comprends. Mais c'est ça qui est dommage aujourd'hui, d'ailleurs. Parce qu'on peut contester, on peut dire ce que. Voilà, on peut avoir un dialogue. Mais en fait, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que. Voilà. Vous n'avez pas le droit de... On vous enlève la parole. C'est ça qui est fou. Mais je pense quand même, si vous me permettez, qu'il y a une responsabilité. En l'occurrence, vous êtes chez Gallimard, le patron, c'est au patron de vous défendre.
C'est comme ça. Vous savez, il faut toujours un bouc émissaire, au sens de Girard. C'est-à-dire qu'il faut toujours quelqu'un qui serve de baudruche sur laquelle on tape. Et voilà, donc...
Bon, il est vraiment. Je voulais vous accorder une très grande, un très grand espace.
Merci.
Mais non, parce que je. Alors, d'abord, je pense que ce livre, vous allez être surpris, parce que vous n'avez pas la télévision, mais vous allez l'aimer, croyez-moi. Parce que les livres qui passent chez nous, hop, sur Amazon toute la journée, ils sont premiers. Donc, nouveau lieu commun. D'abord, c'est très agréable à lire. C'est très drôle. Je ne sais pas si vous validez ce que je dis.
J'ai ri moi-même en l'écrivant parfois.
Voilà, moi je trouve que c'est très drôle.
Alors, faut s'accorder sur la définition de l'humour. C'est assez éloigné de Patrick Sébastien, par exemple.
Non, voilà. Oui, mais bon.
Plus proche de Sioran que de Patrick Sébastien.
Mais on peut aimer Patrick Sébastien et Richard Miguel.
Mais c'est mon cas. Mais je préviens juste les lecteurs.
Je trouve que cette photo dans la reine.
Je l'ai dit, je l'ai écrit.
Voilà, exégèse et exorcisme. Restez quand même un petit peu avec nous, puisque Noémie Schulz, qui était là ce matin, je voulais absolument que vous nous racontiez, Noémie. Je raconte toujours comment ça se passe. La rédaction est venue hier dans mon bureau. Elle m'a dit, je vais vous raconter une histoire incroyable de justice qui se passe en France. Et je lui ai dit, venez la raconter demain. Noémie, je vous donne la parole.
C'est ce qu'on appelle un dysfonctionnement judiciaire. C'est un homme de 53 ans qui, depuis 2 ans et demi, est mis en examen pour un double homicide. Il est soupçonné d'avoir tué son voisin et la compagne de ce voisin, une femme qui s'appelle Karine Teboul, une nuit sans mobile apparent. Les circonstances de ce double homicide sont particulièrement sordides. Les corps ont été retrouvés avec de multiples traumatismes. Et rapidement, un suspect, l'habitant de l'appartement mitoyen, est interpellé. Il nie les faits, mais plusieurs indices graves et concordants ont conduit à sa mise en examen et à son placement en détention provisoire. On a notamment retrouvé du sang des victimes sur son scooter, sur une serviette dans son appartement. Il y a aussi eu des déplacements qu'il a effectués la nuit des faits. Sa détention provisoire avait été prolongée le 10 avril dernier pour une durée de 6 mois, mais son avocat a fait appel de cette décision. La loi l'y autorise, donc il exerce les droits de la défense. Et lors de l'audience devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, il a soulevé ce qui s'appelle un moyen de nullité. Il a fait remarquer que la curatrice du suspect, puisque cet homme est sous curatelle, n'avait pas été informée de la date d'audience de demande de prolongation de la détention provisoire. C'est un peu technique, mais pour résumer, elle aurait dû être présente à cette audience. Personne ne l'en avait informée. Et donc, le dysfonctionnement judiciaire, il est là, il est dans cette absence d'information. La chambre de l'instruction, qui s'est appuyée sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, a estimé qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'annuler la prolongation de la détention provisoire. Et c'est une décision qui horrifie le frère de Karine Teboul que j'ai rencontré.
Le sentiment qu'on a, c'est, enfin pour moi personnellement et pour ma famille, c'est qu'on a assassiné 2 fois ma sœur. Aujourd'hui, pour moi, on l'a assassiné 2e fois. On est apeuré et on est très, très remonté de cette décision de justice qui, pour moi, est lunaire. Et voilà, j'ai même pas les mots pour vous expliquer, pour vous exprimer à quel point c'est pour moi, ça ne peut pas exister.
Donc ça veut dire que ce suspect est libre.
Alors, pas exactement. D'abord, la chambre de l'instruction l'a soumis à un strict contrôle judiciaire. Il n'est plus en détention provisoire, mais il doit respecter une série d'obligations.
Vous ne dites pas exactement, il n'est pas en prison.
Parce qu'il n'est pas en prison. Mais
Monsieur Millet, il écoute le langage, vous voyez.
Absolument.
Parce que quand vous répondez pas exactement, déjà, vous êtes dans un drôle
de
langage.
Je n'ai pas terminé.
Quand tu n'es pas en prison, tu es libre, en fait.
Sauf que cet homme, son avocat a sollicité un médecin qui a demandé au préfet de le faire hospitaliser. Donc il est actuellement en hôpital psychiatrique, cet homme. D'accord. À la demande du préfet. Donc là, en l'état actuel des choses, il ne peut pas sortir.
Ah, d'accord. Donc je retire ce que j'ai dit et M. Millet aussi.
Les experts ont en effet observé qu'il souffre de troubles psychiatriques, psychologiques lourds, mais on ne sait pas pour combien de temps il va être hospitalisé. En gros, maintenant, ce sont les médecins qui peuvent dire s'il faut le garder à l'hôpital, et c'est ça qui est insupportable pour la famille. On écoute à nouveau Stéphane Teboul.
J'en veux à la justice, et j'en veux au dysfonctionnement de la justice. C'est plus que de la colère, je ne peux même pas exprimer mes mots, mais c'est de la colère, du désarroi. Moi, mon seul but aujourd'hui, c'est qu'il soit incarcéré, qu'il soit remis en détention, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le laisser dehors.
Que va-t-il se passer maintenant ?
Si les médecins estiment qu'il doit rester à l'hôpital, il ne sort pas, il n'est pas libre de ses mouvements, mais sinon il sera sous contrôle judiciaire avec ses obligations à respecter. S'il ne les respecte pas, il pourra retourner en détention et sinon on attend la fin de l'instruction pour savoir si cet homme va être jugé pour ce double homicide.
Et vous voyez, on n'est pas loin du livre de Richard Millet parce qu'on nous a appris toute notre vie qu'une porte doit être ouverte ou fermée, mais là on apprend qu'une porte peut être ouverte et fermée.
Voilà.
Ça, c'est intéressant, c'est une évolution du langage.
Eh bien, je vous remercie grandement, chère Noémie. On était avec Richard Millet ce matin, nouveau lieu commun. Alors, vous ne regardez pas la télévision, mais vous avez peut-être envie d'en faire.
Moi ?
Ah, vous seriez. Alors, moi, franchement, si vous veniez de temps en temps, vous viendriez de temps en temps.
Vous parlez tous trop. J'adore.
Une fois, je ne sais pas. On pourrait dire une fois par trimestre. Pour nous dire le sentiment que vous avez sur notre société, moi, j'achète, je prends.
D'accord.
On est des gens. Plutôt sympathique, plutôt conviviaux.
J'ai pas été agressé, donc.
Mais pourquoi je vous aurais.
Mais je m'attends à tout.
Ah bon ?
À toujours. Je vais faire attention maintenant en prenant le métro parce que...
Oui, là, vous allez être reconnu.
Mais oui.
En revanche, M. Millet, quand vous dites que nous parlons tous trop, je trouve que c'est une généralisation.
Non,
s'adresse à certains d'entre nous, mais pas à tous.
Madame Dornella, j'avais pas fini ma phrase. Vous parlez tous trop bien par rapport à moi. C'est ça que je voulais dire. Mais vous avez...
Non, là, vous êtes dans l'excès de modestie.
Je terminerai pour vous donner le ton de ce que vous écrivez. La constitutionnalisation de l'IVG, le droit prime ici sur l'éthique, comme le corps sur l'esprit, ce qui montre bien que la liberté du corps, de ses pulsions, de ses désirs, de ses fonctions naturelles est l'objet d'une grande sollicitude. En vérité, ce que ne voient pas les partisans de la culture de mort, c'est que la société non seulement pense à leur place, mais qu'elle décide à chacun de devenir de leur corps, du devenir de leur corps, aussi bien quant à la santé que dans ces dispositifs désirants, comme on disait naguère, pour faire chic.
Bien, non mais franchement.
Il y en a 300 comme ça.
Moi je trouve que c'est.
Robots.
Non mais c'est. Écoutez, vraiment, achetez Richard Millet. Voilà.
Achetez son livre.
Oui.
Non, il faut lire.
Bon, achetez.
Il vient d'acheter le livre.
300, ça fait une année.
Bon, achetez. Et puis, ce serait formidable que des gens vous invitent. Quand même, on a besoin, même nous-mêmes, d'être titillés, parce que bien sûr, alors, on fait pas la même chose. Nous, on fait des, la télévision, ça rentre par là, ça sort par là. C'est une distraction.
Mais est-ce que c'est sérieux l'invitation à venir à une...
Ah oui, vraiment, moi c'est sérieux. Vraiment, c'est sérieux.
Mais vous me dites.
Mais moi, nous, il y a une part de divertissement dans ce que nous faisons, mais moi, je ne suis pas un intellectuel comme vous à rester dans mon tonneau et à chercher au sens à avoir la vie. Bon, c'est comme ça.
C'est le tonneau ou la télé.
Non, qu'est-ce que voilà.
Bon, vous... Non, c'est le RER.
Non, mais vous êtes un intellectuel, vous l'avez dit, vous réfléchissez. Bon, nous, on
va. Pas... Vous aussi, vous réfléchissez, ne faites pas comme si.
De grands mots.
Oui. Oh bon, on se réfléchit dans notre miroir, essentiellement.
Non, bon, donc voilà, mais c'est intéressant d'avoir effectivement cette pensée. Et puis cette. Moi, j'aime bien les gens qui sont un peu drôles. Et manifestement, vous l'êtes beaucoup.
Qu'est-ce que vous voulez, que je vous fasse une chronique de temps en temps sur la langue
Vous viendriez, puis vous donnez... Alors, il faut un peu que vous regardiez la télévision et que vous écoutiez...
CNews.
Ah bah, CNews,
On peut regarder sur ordinateur.
Bien Pardon
sûr. On peut le regarder sur ordinateur.
Oui, ah oui, vous pouvez nous regarder sur ordinateur le matin.
Vous n'avez pas de TD.
Non.
Allez, c'est terminé. Merci vraiment en tout cas. Et merci beaucoup parce que je trouve que c'était très intéressant d'être avec vous ce matin. Qui était avec nous ce matin? Michael Thomas était à la réalisation, Felipe était à la vision, merci à Nicolas qui était au son, Marine Lançon, Félix Perrola. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr et je rappelle donc nouveau lieu commun, exégèse, exorcisme, la nouvelle librairie édition. Merci évidemment à l'ami Eric Nolot qui avait chroniqué ce livre dans le journal du dimanche et qui m'a donné l'envie et le désir de faire venir Monsieur Millet. Bonne journée à tous. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Rendez-vous ce soir.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.